Les arbres, les fleurs, les beautés de la nature, c'est la main verte avec Alain Baraton. Mon cher Alain, bonjour.
Et le plaisir de vous voir. Bonjour Pierre Veil, bonjour à toutes et à tous.
On va parler d'un arbuste ce matin, le Dipladenia. C'est une plante très en vogue en ce moment.
Oui, pour ceux qui ne la connaissent pas, le ton de votre voix indique qu'apparemment vous auriez quelques difficultés à l'identifier. Sachez Pierre que le Dipladenia est une vivace qui produit des feuilles épaisses et brillantes et elle fleurit de juillet à octobre-novembre. Ses fleurs sont belles, grandes et le plus souvent roses, rouges et blanches. Il en existe même, mais depuis peu, de couleur orange et jaune. Le Dipladenia est une liane plus ou moins volubile. Il est de culture facile, supporte la sécheresse, bien pratique quand il est en pot, mais attention, il est gélif en dessous de moins 3 degrés, c'est la mort assurée.
Alors d'où vient-il Alain et depuis quand est-il possible d'en cultiver chez soi?
Le Dipladenia est originaire du continent américain et pour être plus précis, du Costa Rica, Colombie, Jamaïque et Brésil. Les premiers plants introduits en Europe l'ont été en Angleterre à la fin du 19e siècle.
Mais Alain, pourquoi ce nom de Dipladenia?
C'est maintenant pour vous, Pierre, que cela se complique, oui. Car deux noms en France désignent
pas trop,
mais là, vous allez voir, c'est pas simple. Deux noms en France désignent la même plante, le Dipladenia et le Mandevilla. Dipladenia a pour origine le grec diplos, qui veut dire double, et aden, qui signifie glande, ceci en relation avec les deux glandes présentes dans l'ovaire de la fleur. Mais la plante, avant de s'appeler Dipladenia, s'appelait Mandevilla, en l'honneur de Henry John Mandeville, né en 1771 et mort en 1861. Ministre et diplomate, il est un passionné de jardin et quand il part en voyage officiel à Buenos Aires, en Argentine, je crois une ville que connaît très bien Patricia Martin, il découvre ce végétal qui peut atteindre sur ses terres d'origine plusieurs mètres de hauteur. Quand il rentre dans son pays, Mandeville ramène la plante qui est alors baptisée en son honneur.
Et alors, vous me disiez avant le début de cette émission, parce qu'on discute un petit peu, comme je n'y connais rien, beaucoup de sites internet disent que Dipladenia et Mandevilla ne font qu'une seule et même plante.
Et la majorité de mes ouvrages botaniques aussi, sauf celui publié en 2010 aux éditions Edisud par les deux plus grands spécialistes français de cette plante, je veux dire Huguette et Robert Lannes. L'ouvrage est sobrement titré Dipladenia et Mandevilla, balcon, terrasse, jardin. Il est écrit, page 10, que les différences entre les Dipladenia et les Mandevilla concernent principalement la taille, l'aspect des fleurs, des feuilles et l'attitude des plantes à former des tiges volubiles. Et d'ajouter, la réponse à la question est maintenant limpide. Les horticulteurs et producteurs appellent Dipladenia les plantes quand elles sont présentées en touffe et Mandevilla quand elles sont présentées en plante grimpante.
Merci Alain. Les questions, elles sont nombreuses pour vous, Sophie. Justement, quand et comment tailler son Dipladenia et pourquoi ses feuilles ont-elles jauni?
Alors, généralement, quand elles jaunissent, c'est un manque d'eau. Ça, c'est pas très compliqué. On a tendance à trop oublier que les plantes ont besoin d'eau. Comment tailler? Eh bien, en taillant court tous les ans, parce qu'il faut savoir que la fleur, déjà, fleurit sur le bois, fleurit sur le bois de l'année. Donc, tout simplement, en mars-avril, vous réduisez des deux tiers, j'allais dire, le feuillage du Dipladenia, et en toute logique, l'année prochaine, il devrait refleurir abondamment. Il aime bien de temps en temps être rabattu, ça lui fait du bien, et ça permet d'éviter que le végétal reste dense, au moins d'un point de vue feuillage.
Un courriel de Martine. Quand et comment tailler un énorme hou de 5 mètres de large et 6 mètres de haut?
Oh là là, alors le hou ne sera taillé que si vraiment il y a matière à devoir le tailler parce que devenu gênant. Vous savez, le hou, Pierre, est un
ça
arbre...
Ça met très longtemps à pousser,
oui,
non?
Oui, voilà, vous avez tout à fait raison, c'est extrêmement lent à pousser. Mmh. Un arbre, même très vieux, peut être extrêmement fragile. Et c'est une plante qui, une fois qu'elle s'est adaptée à un sol, n'aime pas trop qu'on la bouscule. Le hou, par exemple, est une plante qui aime bien fructifier en hiver, quand les feuilles des arbres caducs sont tombées. Donc il aime bien pousser généralement en été à l'ombre, et profiter justement d'un peu plus de luminosité pour fructifier. Le hou est vraiment délicat, on ne taillera donc que légèrement, à peine ce qu'il doit être coupé, mais si on veut rabattre le hou, c'est pratiquement, peut-être pas la mort assurée, mais la certitude d'avoir dans son jardin un arbre qui aura perdu toute sa dignité, sa fierté, qui ne ressemblera à plus grand-chose, excepté peut-être à une balayette, donc on y touche à peine.
Une question de Soisic, qu'est-ce que le pH d'un sol.
Voilà, là, ça devient compliqué. C'est ce qu'on appelle le potentiel hydrogène. C'est le degré d'acidité ou d'alcalinité d'un sol. Pour faire simple, quand vous avez un taux inférieur à 7, généralement, on considère que la terre est acide et on y mettra des végétaux qui aiment ce genre de terre, comme le lupin, comme la mousse ou comme les fougères. Lorsque le pH est égal à 7, c'est qu'il est neutre, on va dire, idéal pour la groseille ou le persil. Et puis, quand il est supérieur à 7, eh bien, on y met quantité de plantes comme les choux de Bruxelles ou les choux-fleurs. Cela veut dire qu'il est alcalin ou qu'il est basique. Voilà donc à quoi correspond exactement le pH d'un sol, sachant que le pH influe la croissance des végétaux et qu'il est toujours bon, quand vous avez un jardin, de calculer le pH. On le fait très facilement. Vous achetez dans la terre des petites languettes de terre. Il vous suffit de prélever quelques échantillons de sol, de mettre, en suivant le mode d'emploi, la petite languette. Elle vous indiquera très clairement le taux.
On aura le pH.
Oui, ah, tout à fait.
Alain Jérémy nous a écrit « Je vais quitter mon jardin pour ne le retrouver qu'au printemps. Me faut-il déjà tailler les rosiers ?»
C'est une question un peu... Écoutez, nous avons toujours des températures estivales. Il ne pleut toujours pas. Si on coupe les rosiers maintenant, ils risquent de redémarrer un petit peu avant l'hiver. Si on ne les taille pas, ils risquent de continuer de pousser quand vous revenez au printemps, d'être un petit peu, j'allais dire, trop important. Donc moi, ce que je ferais, si vraiment je devais quitter mon jardin aujourd'hui pour ne le retrouver qu'en mars-avril, je me contenterais simplement de réduire de moitié le branchage des rosiers. J'en profiterai pour rééquilibrer le végétal, supprimer le bois mort ou les branches cassées, et je ne ferai absolument rien d'autre.
Brigitte, faut-il rempoter une orchidée après la floraison ?
Alors non, pas nécessairement, parce que déjà une orchidée peut rester 2 ou 3 ans dans la terre telle qu'elle est, et après, simplement et seulement après, on pourra envisager dans un terreau spécial orchidée. C'est important. Et à propos d'orchidées, tiens, si vous les aimez, je vais en profiter pour signaler aujourd'hui, c'est très important, aujourd'hui et demain, la 11e édition entre cour et jardin. C'est au Mans. Tous les ans, je saluais le fondateur de cette manifestation, Jean-Claude Boulard, qui est décédé l'an dernier. Là, c'est Josiane Coiston, la présidente, qui aura l'immense plaisir de m'accueillir tout à l'heure, parce que j'y vais tous les ans, et j'espère que le maire du Mans a prévu un repas pour ce midi. 250 membres bénévoles, 20 000 visiteurs sont attendus. Oui, vous souriez, Patricia, c'est une très belle manifestation. Faut bien rigoler, c'est une très belle manifestation. Vous découvrez la vieille ville du Mans, il y a des portes qui s'ouvrent, c'est magnifique.
Une dernière question, Alain, le petit noisetier qui pousse dans le mur, peut-il l'endommager ?
Petit noisetier fera tomber grand mur, hein. Donc on coupe le petit noisetier parce que malheureusement, les racines dans un mur feront quantité de dégâts. Il n'a pas beaucoup de place et le noisetier est quelque peu vigoureux.
Alain Baraton, c'était un plaisir de vous revoir.
Le plaisir partagé.
Et nous avons rendez-vous demain matin ?
Oui, avec plaisir.
Vers 8h moins le quart.
Je serai prêt, je serai
exact. Vous faites l'aller-retour au Mans, là.
Je fais l'aller-retour, non, mais je plaisantais pour le maire du Mans, Stéphane Le Foll. Faites simple, monsieur le maire, faites simple.
Abondant quand même.
À demain matin, Alain.